On accueille Albert maintenant au 3921. Bonsoir Albert.
Bonsoir, bonsoir. Je suis un peu ému de vous entendre, mais excusez-moi.
Pardon ?
Je suis un peu ému de vous entendre.
Oui, oui.
Parce que je vous vois toujours à la télévision, je vous écoute rarement sur votre émission de radio, mais je vous vois en train de vous occuper tellement bien des gens à la télé que je suis un peu ému de vous entendre.
D'accord. Mais écoutez, j'espère que ça va vous faire du bien, en tout cas.
J'espère.
Qu'est-ce qui vous amène, Albert ?
Oh, pas grand-chose. Pas aussi pénible, aussi difficile que votre précédent interlocuteur, mais angoissant quand même. Comment m'expliquer ? J'ai un petit souci avec ma maman, dans le sens que maman est Alzheimer, maintenant en GIR 2, c'est-à-dire pratiquement plus du tout d'autonomie,
oui.
qui ne me reconnaît plus.
D'accord.
Elle est tombée dans la rue il y a 3 ans. Sur le moment, elle disait « Oh, c'est pas grand-chose, je continue ma journée comme d'habitude. » Puis le soir, hospitalisation, on y est resté 4-5 heures à l'hôpital, et puis on est rentré à la maison, et puis après, je suis resté à la maison à peu près 6-8 mois, 9 mois à la maison, en permanence avec elle, à m'en occuper, matin, midi, 4 heures, soir, faire les courses, et tout le reste. Et puis un jour, le diagnostic est tombé, on nous a dit « Alzheimer ». On s'est dit, qu'est-ce qui va nous arriver sur la figure ? Ben, c'est perte d'autonomie, c'est perte de mémoire, c'est l'horreur de la déchéance de la personne âgée qu'on veut maintenir à la maison parce que c'était son choix et puis qu'il n'est pas question de déroger à ça. M'occuper de personnes âgées, ça m'est arrivé plusieurs fois, dans le sens que je me suis occupé de ma grand-mère pendant quelques années où j'allais passer à l'équivalent de 3-4 mois par an avec elle. Elle avait une grosse propriété en Touraine et je m'occupais du jardin, je m'occupais des repas. Je me levais pas la nuit parce que la nuit elle était encore autonome de ce côté-là. Et puis on lui mettait du protection de nuit, donc il n'y a pas besoin de ça. Et puis, la maison était grande et puis il y avait du personnel autour, donc il y avait encore quelqu'un pour me seconder, si on peut dire. Et puis après ça, je me suis occupé d'une imprimerie scolaire pendant 11 ans où la supérieure avait passé ses examens de fac avec une amie d'une cousine de ma grand-mère. Enfin bref, ça restait toujours dans le cercle familial malgré que je faisais assez souvent les 400 coups. Et puis maintenant, maman qui est malade, c'est assez difficile. Et puis je me retrouve avec des tracasseries administratives autour et puis les tracasseries administratives me bouffent la vie finalement.
Mmh.
Mais ce qui est angoissant, c'est de voir la déchéance des parents. Bon, moi, j'ai perdu mon père en 80 de cancer. Maman s'en est occupée pendant quand il est malade. On avait un ami médecin qui habitait à côté de la maison, qui a pris en charge papa et maman, et qui a beaucoup aidé maman pour tout ce qui était la vie quotidienne générale au cours d'un cancer. Et s'est battu pendant 6 mois avec mon père, puisqu'au bout de 6 mois, mon père n'était plus là. Ils ont fêté leur anniversaire de mariage, et puis après, papa est décédé un mois plus tard. Et puis maman, après, elle a assumé les 2 enfants mineurs qui restent à la maison, puisqu'on est 3 garçons. Et puis maintenant, depuis 3 ans qu'elle est malade, c'est moi qui trinque, parce que je ne veux pas la mettre en EHPAD. Et puis mes 2 frères travaillent.
Oui. Et donc, c'est vous qui en avez la charge ?
Non, pas du tout. On l'assume à 3, mais...
D'accord. Mais
c'est moi qui assume tous les week-ends, si on peut dire.
Oui, c'est ça. C'est, donc quand je disais ça, c'est que c'est vous qui... c'est vous qui en avez le plus... qui êtes le plus là, en fait.
Assez souvent, oui.
Mmh.
Oui.
Et vous en parlez avec... vous en parlez avec vos frères ? Vous leur dites que c'est quelque chose qui vous pèse ?
J'ose pas trop en parler parce que bon, d'abord ils ont leur travail qui est assez prenant chacun de leur côté.
Mm-hmm.
Mais ils le savent que c'est difficile, mais ils essayent de me protéger comme ils peuvent. Mais moi j'ai du mal à partir de la maison, c'est-à-dire que j'ai beau être censé arriver samedi matin, en réalité j'arrivais vendredi soir. Je suis censé partir le lundi matin. Généralement, le lundi soir, je suis déjà de retour à la maison. Mmh. Et je pars le mardi matin ou le mardi après-midi. Et puis, à côté de la maison, j'ai une structure où je participe, où je fais du bénévolat. Et c'est une structure unique en France, si on peut dire, dans le sens que on est un peu comme un Emmaüs, sans avoir la structure d'Emmaüs. Et on est à moitié entre la mairie locale d'Hérouville, en l'occurrence, et puis la CAF à Caen, et puis les bailleurs sociaux locaux. Et on aide les gens à se sortir de leur MERDE,
ouais.
Dans le sens qu'on les aide. Il y a un psycho intérieur, il y a une agent CAF, il y a deux agents CAF, deux agents municipaux, trois, quatre bénévoles permanents, dont moi aussi. Et donc, quand j'ai un peu de temps à la maison de libre, je vais me détendre chez eux.
D'accord.
Et
votre maman ne cesse de s'enfoncer dans la maladie, en fait. Comment ouais. vous voyez... Vous arrivez à vous projeter un petit peu dans les semaines, dans les mois qui viennent? Est-ce que ça va vite?
L'angoisse, c'est que maman disparaisse et que je me retrouve tout seul le moment où elle va disparaître, que je me retrouve tout seul parce que ça arrivera un week-end. Parce que généralement, ça arrive quand il n'y a plus personne à la maison. Et que c'est l'angoisse. Parce que la maladie d'Alzheimer, malheureusement, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de... On peut donner des médicaments, on peut faire intervenir une infirmière deux fois par jour.
Oui.
Le médicament, au début, elle l'avale et puis après, elle le mâchouille. Et puis, vous lui dites une chose, un quart d'heure plus tard, faut recommencer. Et puis, faut l'accompagner aux toilettes parce qu'elle n'est pas capable de s'en occuper toute seule. Et puis, faut la mettre dans son lit. Et puis, il faut servir les repas à minuit, 1h du matin, recommencer le dîner du soir.
Qu'est-ce qui accompagne comme réflexion votre décision de la garder jusqu'au bout, Albert?
C'est elle qui a décidé.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans la famille, que ce soit du côté de maman ou du côté de papa, on n'a jamais mis personne dans une maison de retraite.
D'accord.
On n'a jamais mis personne dans une EHPAD.
Mm-hmm. On évoque souvent sur cette antenne justement le regard que les civilisations africaines, nord-africaines, asiatiques portent sur nous, notre facilité à mettre nos anciens dans des EHPAD. Et vous faites comme dans le temps,
ouais.
En fait. Vous vous occupez de vos parents.
On a toujours fait comme ça. Moi, je vois ma grand-mère qui pendant les dîners, elle s'est retrouvée veuve pendant... Elle a été veuve pendant 22 ans et 2 mois.
Oui.
Entre la mort de mon grand-père dans les années 84... Et elle, en 2005, elle a passé tout le reste du temps chez elle, en permanence chez elle. Elle avait du personnel autour parce que j'avais une maison qui avait les moyens de financer une hospitalisation quasiment à domicile. Et c'est ce qu'on essaye nous aussi de faire en aide avec différents organismes, comme je vous ai marqué dans le message que vous avez dû lire avant de me recevoir.
Complètement.
Dans la famille, du côté de maman, comme du côté de mon père, ça, la maison de retraite, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Tant que je peux encore assumer, ça n'existera pas. Parce que je ne veux pas avoir ma mère dans ce genre de situation. Peut-être quand je ne serai plus là, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Et même quand maman était valide et totalement autonome, qu'elle allait donner du temps à la maison de retraite de la ville, qu'elle donnait du temps à faire des fleurs dans l'acte paroissial, qu'elle faisait beaucoup de choses très différentes, parce que maman a fait vraiment des boulots pas possibles toute sa vie. Toujours assez hétéroclite. Elle a été madame sinistre pendant une vingtaine d'années dans une grosse société d'assurance.
Oui.
Avant, elle avait arrêté de travailler pour nous élever, mais avant, elle travaillait avec des locations familiales à Rouen.
Oui. Et je crois même que vous vous affrontez parallèlement à la santé de votre maman, vous affrontez des problèmes, notamment avec la caisse de retraite de votre père, avec... on ne vous facilite pas la vie de ce côté-là.
Non, parce que ce qui se passe, c'est que... Bon, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je dirais que je préférerais vous parler un peu de ça hors antenne, parce que je n'ai pas envie d'étaler tout ça sur la place publique.
Non, mais sans citer de nom, citer réellement, en quelques mots, dites-moi ce qui ne va pas de ce côté-là non plus, parce que c'est important que vous souligniez que vous faites cet effort, en tout cas, c'est cette conviction qu'on s'occupe de ses parents, et malgré ça... À côté de ça, vous affrontez une administration, des caisses de retraite qui ne vous facilitent absolument pas la vie.
Ce qui se passe, c'est que la caisse de retraite de mon père, puisque mon père était profession libérale, la caisse de retraite de mon père, jusqu'alors, versait une allocation à maman de
ce qui est normal.
Qui est une rente. une rente de veuvage et une rente de reversion.
Qu'elle doit toucher encore aujourd'hui, hein, qu'elle devrait toucher aujourd'hui.
Moi, je peux vous transmettre les pièces correspondantes, hein, y a aucun problème. J'ai un dossier complet ici sur mon ordinateur.
Elle doit toucher jusqu'au jour
elle
de sa
touche.
Mort. Voilà.
Oui. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a 2 ans à peu près, la caisse de retraite m'a envoyé un papier à mon nom, alors que normalement, c'est toujours au nom de maman. Donc elle envoie mon nom et puis elle me demande un papier que je lui transmets. Et puis ensuite, quand je fais ma déclaration d'impôt suivante, eh ben, je reçois sur ma feuille d'impôt le montant d'une partie de la retraite de maman sur ma déclaration d'impôt. Puis quand je vais voir l'organisme qui gère habituellement nos feuilles d'impôt, il me dit, ça c'est vous qui déclarez, nous on n'a rien à faire et puis on n'en a rien à foutre, c'est pas notre problème. On arrangera ça avec vous, mais en réalité on n'en a rien à foutre parce que finalement, ils n'ont rien fait. Et puis finalement, maintenant, la SANCAF me coupe les vivres à moitié. Alors la responsable de la structure où je fais du bénévolat leur a téléphoné en disant « Mais attendez, le droit à l'erreur, ça existe jusqu'à preuve du contraire. Il a droit à une erreur et vous ne le reconnaissez pas. » Parce qu'au départ, ils voulaient me mettre mes revenus à zéro. Donc ils se sont un peu engueulés entre eux, entre services. Et puis finalement, ils en ont maintenu la moitié. Mais avec la moitié, je vais pas faire long feu, moi. J'ai des économies, mais c'est pas à moi de payer les erreurs des administrations.
Complètement.
C'est pas à moi de payer ce genre de choses. Alors tout le monde se renvoie la balle. J'ai un de mes frères qui les appelle régulièrement, mais il se fait balader comme n'importe qui. Bon, il va peut-être un jour pousser un coup de gueule, mais en attendant, ils en ont rien à foutre. Et le pire dans tout ça, c'est que l'organisme qui me verse mes allocations mensuelles me traite de voyou, de voleur et de menteur. Hein? Et en général, quand ce genre d'organisme vous met au rouge chez eux, vous y êtes à vie parce qu'ils n'en ont rien à foutre de vous. De toute façon, vous n'êtes qu'un pion sur un échiquier. Et encore. Mais bon, ça, c'est un problème financier. Mais bon, je m'en remettrai pas. En ce moment, je suis exempt de tout ça, dans le sens que j'ai plus envie de partir avant maman que moi. Qu'elle.
Oui, mais ça.
J'ai pas envie qu'elle soit la première de nous deux à partir. Moi, j'ai envie de partir au plus vite, tellement j'en ai marre. J'ai une amie de maman avec qui elle a fait beaucoup de trucs paroissiaux, qui me reçoit chez elle tous les jours pour m'occuper. Parce que c'est très bien que si on me laisse seule, je risque de faire la connerie irrémédiable.
Oui.
Et la maman se retrouve en EHPAD, parce que mes deux frères ne pourront pas s'en occuper tous les jours. Même avec les gens de la mairie qui viennent, le service social de notre commune qui viendra s'en occuper, comme tous les jours. Mais des fois, quand je passe à la maison et que c'est pas prévu, je vois des trucs que j'accepterais pas, du genre protection de nid mis dans la journée, en pyjama toute la journée, des repas servis, pas servis, des repas sur la table, mais maman n'a pas mangé, elle est repartie dans son lit, ou elle est assise sur son lit en train de pleurer quand j'arrive. Je rumine l'énervement permanent. Et quand je vois qu'un organisme de retraite qui aurait pu réfléchir un petit peu avant d'envoyer un papier ne réfléchit pas, ou a fait une erreur et puis personne n'a réagi à ce moment-là, et moi je transmets un papier qu'on me demande, alors que normalement j'aurais pas dû le transmettre, mais bon, j'ai transmis par erreur. Après, quand je dis je veux pas déclarer ça sur mon compte, on me dit de toute façon, déclarez pas. De toute façon, l'organisme qui vous règle au retour le sera prévenu, donc vous, on verra après. Et puis, quand on se retrouve au moment d'avoir des ressources, on voit des trucs que vous n'auriez pas dû avoir. Et après, on me dit, vous allez dépenser d'abord vos économies, puis quand on aura plus, on regardera votre dossier. Donc, je suis sur la tête.
Oui.
Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas envie de voir maman partir dans une EHPAD. J'ai pas envie de me retrouver tout seul avec elle le jour où elle partira.
Oui, oui.
Bon. Et je sais pas quoi vous dire.
Oui. Il faut, Albert, il faut tout de même remettre un peu de cadre dans tout ça.
Mais je ne sais plus.
Et je m'entends par là, vous allez comprendre. Je pense que vous devez avoir une discussion avec vos deux frères, tout de même.
Mais je l'ai régulièrement.
Oui, mais vos deux frères ont l'air de vous laisser un peu prendre les rênes et venir comme ça, parcimonie, non ? Ils vous aident vraiment, Albert, vos frères ?
Comment ?
J'ai l'impression que vos frères vous aident, mais un peu. Est-ce qu'ils vous aident assez?
C'est eux qui ont mis en place le service d'aide à domicile. avec la commune.
D'accord.
C'est eux
et
qui c'est gèrent normalement les comptes.
C'est deux fois par
Comment
semaine ou c'est chaque jour l'aide à domicile?
L'aide à domicile, c'est 50 heures par semaine.
D'accord, bon ça c'est pas mal quand même.
La garde de nuit, c'est tous les jours du lundi soir au samedi matin.
Donc ça fait
Moi,
quand même...
En théorie, j'assume le coucher. Normalement, on devrait arriver, bon, en ce moment, avec les confinements, avec les trucs et les machins, parce que ça aussi, ça appuie sur le système. Avec le confinement, avec tous ces trucs-là, j'arrive le vendredi soir et je repars que le lundi après-midi, ou le lundi matin. Parce que bien souvent, le lundi matin, ben, j'ai des trucs impératifs à faire, du genre visite médicale, aller voir le médecin pour faire un renouvellement d'ordonnance ou d'aller chercher du médicament parce qu'on n'a pas assez pour la semaine. Mm-hmm. Parce que l'infirmière, au lieu de préparer la boîte le vendredi, elle le prépare le dimanche.
D'accord, mais est-ce que, Albert, dans ces 4 jours, vos frères, eux aussi, participent à l'effort? Parce que c'est bien de mettre les choses en place, mais je vous rappelle que c'est pour votre mère qu'ils le font et non pour vous. Or, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses par rapport à eux deux.
J'en fais trop. Ok. Certain, j'en fais
et
trop.
Donc, quand je vous dis de poser du cadre, c'est de dire à vos frères, voilà, j'en fais trop. Et là, si ça continue, il ne va pas y avoir que maman qui va ne plus savoir où elle habite. Ça va m'arriver aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, le problème, c'est que moi, je n'arrive pas à lâcher. Je devrais lâcher, mais je n'y arrive pas.
Mais oui, mais il va vous falloir le faire, Albert, d'une manière très calme. Ou alors, si vous n'arrivez pas à lâcher comme ça, verbalement, frontalement avec vos frères, écrivez-leur un mail, communément à tous les deux, en leur disant que ça n'arrive pas verbalement comme ça, ça ne sort pas, mais que vous devez leur dire certaines choses et que vous êtes plus à l'aise en leur disant par écrit, en étant doux, courtois, vous voyez, mais en disant les choses et en remettant du cadre, Albert. Vous n'avez pas à vous sacrifier entièrement, alors qu'il y a deux autres frères qui se sont engagés au même titre que vous à s'occuper
de leur maman. Au départ, on s'était un peu réunis tous les trois en disant qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et donc mes frères m'ont dit, nous on va mettre un système en place pour dans la journée. Et moi, je le vois entre eux parce que je me tais, je dis pas et je fais pas et je fais plus. Le problème, c'est que si j'avais pas ce truc administratif à côté qui me pourrit la vie, je pourrais arriver à vivre à peu près normalement.
Ouais, ouais.
Mais si avec ce truc en plus, je suis. Je vois, il n'y a pas très longtemps, c'était à Noël en l'occurrence, non pas Noël, mais il y a 10 jours à peu près, j'ai mes frères qui me disent qu'est-ce qui se passe. J'ai préparé le déjeuner, puis je leur ai dit bon appétit, je suis parti. Je suis allé marcher pendant 2 heures, j'avais pas envie de me retrouver avec eux à table.
Je comprends.
Et quand je suis revenu, personne ne m'a demandé si ça allait bien, j'ai rien dit, je me suis écrasé. Quand mon frère m'a dit on va aller se promener, puis finalement, non, il faut que je reprenne la route. J'ai dit, tu reprends la route, moi j'allais promener maman, à me promener avec maman, puisque c'est ce qu'on appelle, le médecin nous a dit, votre mère, elle a besoin d'une sortie tous les jours. Bon, elle habite dans une maison, il y a suffisamment de place dans la maison pour se balader, dans la nuit ou dans la journée. On a un bon petit jardin qu'elle a très bien entretenu, que moi j'ai vraiment du mal à entretenir, parce que je ne me vois pas en train de l'entretenir avec elle à côté de moi, qui me dit c'est quoi ça. Et puis, le problème, c'est pas que mes frères n'ont pas mis en place des choses utiles, c'est pas qu'ils ne prennent pas en charge les choses. Si, ils le font très bien de leur côté. Mais moi, je n'arrive pas à quitter la maison aux heures qui devraient être normales pour moi. Mmh. Tout ça parce qu'à côté de ça, j'ai un truc qui me bouffe le cerveau. Et en ce moment, il y a des travaux dans l'immeuble, parce que j'ai un appartement dans un immeuble à Bayeux qui est à 30 km de la maison. Il y a des travaux qui commencent à 8 heures le matin. On a le marteau-piqueur qui commence à vibrer dans les murs. Là, demain et après-demain, ils vont venir refaire l'électricité de cet appartement où je suis là depuis 11 ans maintenant. Ils m'ont changé les fenêtres il y a quelques jours. Mais Le problème, c'est que quand moi je reçois un courrier qui est marqué à mon nom et qu'on me demande un papier, bah, bêtement, je le transmets au lieu de réfléchir, alors que j'aurais dû normalement, quand j'ai reçu ce papier-là, j'aurais dû normalement le transmettre à mes frères qui auraient fait le nécessaire pour le papier. Et j'aurais pas dû m'en occuper. Et comme un imbécile de petit garçon bien obéissant, j'ai transmis le papier qu'on m'a demandé, qui n'était pas, normalement, le courrier était déjà une erreur du service de cet organisme. C'est le papier en question qui était une erreur de ce service que j'ai transmis, que j'aurais pas dû transmettre. Et depuis maintenant, on m'accuse de voleur. On m'a, quand j'ai reçu quand l'organisme de paiement de mes allocations adultes handicapés et allocations logement m'a téléphoné en me disant « Monsieur, on va vous demander 3 ans de retard, 3 ans de paiement que vous auriez jamais dû toucher, plus les indemnités, plus vous coupez les vivres à partir du 1er janvier prochain parce que vous avez fraudé et tout ça et qu'on va vous foutre au tribunal créatif et compagnie. » J'aurais dit « Mais je fais comment ?» Et comme j'étais dans mon centre de bénévolat, je suis allé voir la responsable qui m'a dit « Attends, je prends le téléphone. » Ils se sont fait royalement engueuler, mais ça n'empêche qu'ils ont coupé 50% des revenus. Donc, je fais comment ? Bon, ben, heureusement, j'ai des économies de mon côté. Donc, je peux à peu près y assumer. Mais je n'ai pas assuré 6 mois. J'ai assuré 1 mois ou 2 mois, mais pas plus. Et à côté de ça, je vois la vie de maman qui se dégrade. Et ça me rend fou. Et mes frères font ce qu'ils veulent. C'est moi qui, à la limite, du fait de mon inconsistance ou de mon non-encadrement ou de mes erreurs, du fait que j'ai le cerveau qui est bouffé par autre chose, qui fait que, involontairement, je fous tout en l'air de ce qu'ils ont assumé. C'est moi qui suis l'erreur dans l'histoire. Mais l'erreur, en ce moment, je me dis que si j'arrive pas à me raisonner ou si j'arrive pas à trouver les bonnes personnes qui puissent arriver à m'aider correctement et faire en sorte que cette histoire se débrouille, bah, c'est moi qui vais disparaître avant maman et mes frères vont être très emmerdés. Et moi aussi.
Écoutez,
parce qu'à
en tout
côté
cas,
de ça, la famille vieillit et j'ai 2 maisons qui sont parties il n'y a pas longtemps, plus ma marraine, donc c'est pénible tout ça.
Essayez de faire ce que je vous ai dit, Albert, d'écrire à vos frères si ça ne sort pas, et puis essayez, et puis n'hésitez pas à rappeler Florian ou Natacha pour nous dire comment ça évolue, comment vous sentez cette option-là, si vous avez besoin qu'on vous donne un coup de main pour formuler les choses. Mais vraiment, je pense que vous avez besoin d'aide ou vous allez craquer. Et ça n'est pas le but de la manœuvre, Albert. Ni pour vos frères, parce qu'ils se retrouveront dans la mouise si vous arrive quelque chose. Et puis, pour personne. Vous comprenez ? Donc, le cadre, remettre le cadre du cadre dans sa vie, c'est dire attention, ça tire sur la corde. Là, j'ai beaucoup trop de charges sur les épaules. Il va falloir rétablir l'équilibre pour que tout le monde continue à vivre plus ou moins normalement. D'accord ?
Oui, j'ai vraiment du mal.
Tenez-moi au courant, Albert, ok ?
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, courage
moi
à
aussi.
Vous, et puis voilà, courage, bon vent à vous, Albert.
Eh bien, vous aussi, parce que vous avez des fois des dossiers à résoudre.
Oui,
pas
mais c'est je suis là pour ça, d'accord ?
D'accord.
Au revoir,
et moi,
Albert.
Je ne voulais pas vous déranger.
Mais non, merci non, beaucoup. Vous ne m'avez absolument pas dérangé. N'hésitez pas à me rappeler, en tout cas, d'accord ?
Merci beaucoup.
Au revoir, Albert.
Au revoir.